Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes le 23 février 2019 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes 2019. Je suis Paul Gara et je suis accompagné de Fendoel. Bonjour Fendoel.
Salut Paul Gara.
Comment vas-tu ?
Eh bien très bien.
Aujourd'hui nous accueillons Stéphane Bogard de Edge. Bonjour Stéphane.
Bonjour. Je suis désolé, j'ai la voix un peu cassée.
Pas de souci, on va s'adapter, ne t'inquiète pas.
Trop de karaoké ?
Ouais, c'est après la scène, j'ai pas arrêté.
Alors, avec tous nos invités, nous réalisons un fil rouge, c'est-à-dire une série de questions très simples. Les voici. Pour toi, Cannes, c'est plutôt jeu ou cinéma ?
Jeu.
Est-ce que c'est plutôt bière ou champagne ?
Oh là là, la piège. Parce que j'aime pas la bière, mais je suis pas champagne non plus.
T'as le droit de dire une réponse au milieu ?
Gin tonic.
Gin tonic. Est-ce que tu es plutôt camping ou Martinez ?
Un bon lit et une douche, mais si c'est le Martinez, je vais pas dire non.
Plutôt off ou plutôt dodo ?
Off.
Plutôt salon ou plutôt festival ?
Une grosse partie du temps, c'est quand même malheureusement le salon, mais j'aime bien le festival pour pouvoir animer quand même quelques parties.
Est-ce que c'est plutôt perso ou plutôt pro ?
Alors, 100% pro.
Donc merci de venir parmi nous pour répondre à cette interview. On a depuis longtemps souhaité faire une interview de
ton
interview. Ouais. Ça a été, c'était difficile. On voulait faire une interview long format il y a, je pense, à peu près un an.
Deux ans.
Et ben enfin, on arrive à se voir au moins pour Cannes.
Ouais.
Évidemment, on va démarrer avec la soirée de jeudi, puisque tu étais sur scène, tu étais dans les nommés sur scène pour Keyforge.
Ouais.
Tu as permis de dérider un peu la soirée qui était quand même assez interminable. Donc déjà, on te remercie pour ça, parce que les personnes qui nous ont fait rire pendant la soirée, ça faisait du bien.
Bah, c'est un peu un duo de comique avec Nico Benoît, et on fait du jeu. C'est ce que j'avais dit déjà l'année dernière, donc on essaye un peu de détendre l'atmosphère.
Oui, donc tout était écrit, il n'y a pas d'impro.
Ouais, on écrit tout à 0% et on improvise à 100%, voilà.
Oui, donc tu étais sur scène pour Keyforge parce que tu es le dirigeant de Edge. Qu'est-ce que tu fais exactement chez Edge ? Est-ce que dirigeant, c'est le bon terme ou...
Non, c'est pas le bon terme. Non, en fait, il y a quelqu'un qui est derrière, c'est Gilles Garny, qui est le directeur du studio Edge. Et en plus, on était sur scène, en fait, parce qu'on représente FFG France, en plus. C'est Edge, c'est un studio un peu particulier au sein de la structure Asmodée. On a nos jeux, donc qui sont sous logo Edge, on va dire. On fait de la création et aussi on fait des deals avec des partenaires tiers, d'autres éditeurs. Steve Jackson, Cool Mini, 2FP, Horrible Games, et ainsi de suite. Et à côté de ça, on est en charge aussi de ce qu'on appelle la localisation des jeux d'autres studios du groupe, que ce soit FFG, Pléiade, Z-Man, Studio Kata. Sachant que Edge, je décris un tout petit peu le truc, c'est une entité bicéphale puisqu'on est un studio franco-espagnol et donc le studio français va traduire les jeux espagnols en français et que le studio espagnol va traduire les jeux français en espagnol du groupe. C'est-à-dire que Edge va s'occuper des jeux Space Cowboys, des Offenders, etc. Voilà. Et donc le grand patron, c'est Gilles, mais il aime pas trop, il aime plus trop parler. C'est vrai que c'est moi un petit peu la figure de pro, quoi.
Et du coup, ta fonction officielle, c'est quoi ?
Ça peut être directeur éditorial, coordinateur de studio ou chef de projet. Enfin, c'est un peu tout. On est une petite équipe, hein, donc on...
Vous êtes combien à peu près ?
Alors, en structure pure sur Toulouse, on est 5 avec Gilles. Et en Espagne, on est un peu plus d'une vingtaine. Enfin, je dis on est un peu plus d'une vingtaine. Mais à côté de ça, on a énormément d'intervenants extérieurs. Puisque la plus grande partie de notre travail, c'est quand même la localisation. Donc on a des intervenants permanents.
Et puis après, des traducteurs extérieurs.
Des lecteurs, oui. Après, on a des personnes qui sont chargées aussi de la communication. En général, quoi, on va dire, on doit avoir une cinquantaine d'intervenants, en général.
D'accord.
Okay. L'année dernière, c'était Horreur à Arkham, le jeu de cartes.
Ouais.
On t'avait vu également. Mmh. Donc là, cette année, Keyforge, il y a une appétence pour les jeux de cartes.
Alors, L'année dernière, en fait, c'était... je vais essayer de faire un petit historique pour les gens qui connaissent. François Descamps, qui était l'année dernière, qui était propriétaire d'un magasin à Bordeaux, qui faisait partie du jury, c'était sa dernière année, sa dernière présence en tant que membre du jury, souhaitait à un moment donné mettre en lumière le travail de traduction sur les jeux, avec toute la complexité qu'il peut y avoir. Il se trouve que l'équipe qui travaille sur ce jeu-là chez nous est vraiment une équipe au top. Leur travail est plutôt salué par beaucoup de personnes et des professionnels du jeu, donc en plus qui ont un regard critique sur la chose. Et c'était un petit peu son baroud d'honneur de nous nominer. C'était surtout pour mettre en avant. Après, c'était un jeu de cartes, c'est un peu compliqué, quoi. On était déjà extrêmement fiers et heureux d'être nommés. Et cette année, Keyforge est nommé, mais c'est un jeu de cartes avec un travail de traduction qui est moindre. Mais là, je pense que c'est vraiment la mécanique du jeu, puis l'auteur, c'est un phénomène. C'est un réel phénomène. Mais je pense pas que ce soit le fait que ce soit un jeu de cartes qui est vraiment. Ouais, c'est pas le fait que ce soit un jeu de cartes. C'est le jeu en lui-même. Il y avait trois très beaux jeux dans notre catégorie, complètement différents, paradoxalement.
Toi, Keyforge, quand tu l'as vu arriver, t'as été sous le charme tout de suite.
Alors, on va essayer d'être honnête un petit peu. La première fois qu'on nous en a parlé, on n'a pas compris parce qu'on n'avait pas tous les éléments du jeu à notre disposition. On savait pas. Et puis, quand on l'a vu arriver, c'est complexe. C'est un jeu très, très complexe à travailler en tant qu'éditeur, hein, ou même que l'organisateur, parce que c'est tout nouveau. C'est un process particulier. C'est de l'impression numérique avec des algorithmes. Donc, on se traduit pas Keyforge comme on traduit un autre jeu. C'est le process de maturation. Et après, on y a joué. Ça faisait très, très, très longtemps que j'avais pas ressenti une saine excitation sur un jeu. Je suis quelqu'un de normalement de très pondéré, je dis que j'aime beaucoup les jeux, mais là, c'est un jeu qui est rapide, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une heure ou deux heures de préparation, ça joue assez facilement, et donc on est séduit. Et avec mes collaborateurs, ça nous arrive régulièrement de jouer, parce que c'est rapide. C'est pas le même engouement que Magic à l'époque, parce que moi je fais partie des vieux qui ont connu l'arrivée de Magic en France, déjà à l'époque avec Gilles. On a un petit peu ce côté-là, découverte. L'ouverture du paquet, on sait pas ce qu'il y a dedans. Mais ouais, c'est un bon jeu. Nous, on est accro.
Du coup, quelle est ta maison préférée dans Keyforge?
Je vais dire 10. Mais en fait, alors, pour l'anecdote, je me suis dit, bon, il y a un algorithme, on va voir ce qui se passe. Et il y a 3 maisons qui me plaisent beaucoup. Et je voulais voir comment ça tournait en synergie. Il y a la maison Logos. Il y a la maison Shadow en anglais et Ombre en français, et il y a la maison 10. Et donc, je vais dans les magasins, ça peut paraître paradoxal, mais je vais quand même dans les magasins de la ville pour en acheter. Et là, dernièrement, je suis tombé sur un deck avec ces 3 factions-là. Chance pour moi, en plus, il tourne bien. Mais voilà, mais 10, j'aime bien parce que c'est une approche un peu particulière, c'est un peu de la maîtrise et du vol, c'est fun, c'est très fun.
Moi, j'avais des questions sur les erreurs de traduction dans la règle française. Est-ce que tu veux en dire quelque chose?
Sur Keyforge ou en général?
Ouais, sur Keyforge. En fait, il y a quelques cartes, il y a 5 cartes qui avaient des... Enfin, oui. Je sais pas si c'est des erreurs de traduction ou des corrections de l'édition anglaise, mais en tout cas,
on en a parlé, c'est sur les forums. C'est réellement des erreurs de traduction. Alors, ça rentre aussi dans le process un petit peu, on en a parlé régulièrement. Alors, mes équipes, quand elles font une erreur de traduction, il faut bien se douter que ça leur plaît pas. Ils sont même navrés. Navrés parce que...
Ça, on s'en doute.
Ouais, mais et puis ça a des répercussions très très importantes. Là, il faut savoir que c'est de la tambouille interne, mais le jeu devait pas être traduit à l'origine.
D'accord, il devait rester en anglais?
Oui, parce que... pour plusieurs raisons. Et puis à un moment donné, il a été décidé que le jeu allait se traduire.
Et ça, c'est pas toi qui décide ça du tout.
Non, c'est une décision à plus haut niveau, quoi. Parce que ça, il devait pas être traduit, mais pas qu'en français, il devait pas être traduit du tout.
D'accord.
Et à un moment donné, on vous annonce qu'il faut le traduire. Et vite. Mmh. Et à une période qui est, on va essayer d'être un peu honnête avec tout le monde. Pendant la période des grandes vacances, à la fin du mois de juillet, avant l'événement qu'on appelle la Gen Con.
Oui.
La Gen Con, c'est grosse manifestation aux États-Unis. Et, à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de monde, parce que tout le monde est en congé, il n'y a pas beaucoup de temps, les équipes sont réduites, et on l'a pas vu. Et comme je le disais tout à l'heure, le process de traduction sur ce jeu-là, mm-hmm. et même de vérification, est extrêmement particulier. Et donc, sur beaucoup de jeux de cartes, on n'a pas autant d'erreurs que sur celui-ci. Et là, du fait du stress,
de la précipitation,
et de la méthodologie, on l'a pas vu.
Mais justement, la méthodologie, vous avez pas une procédure de relecture avec plusieurs relecteurs
Si, mais pas là.
D'accord.
Pas et donc là quand il y a eu moi je trouve que on s'en est rendu compte et donc on a mis en place une procédure spéciale sur Keyforge depuis sur ce qui va arriver et sur ce qui a été réimprimé. Par exemple, on va parler de la carte sorcier chasseur. Pour les joueurs de Keyforge, ils savent qu'il y a certaines cartes, c'est sorcier chasseresse et d'autres sorcier chasseur ou même sorcière chasseresse. On a traduit les textes sans l'image. À un moment donné, on annonce et on dit, non, c'est un homme, c'est un sorcier chasseur. Et si on regarde bien dans la première impression du jeu, les cartes dans les listes sont sorcier chasseresse. Dans certains decks, c'est sorcier chasseresse et dans d'autres, c'est sorcier chasseur. Or, la validation qui a été faite, c'est sorcier chasseur. Donc, on pourrait avoir des cartes sorcière chasseresse et des cartes sorcier chasseur dans la logique. Et il se trouve qu'on se retrouve avec des cartes sorcier chasseresse qui n'existent pas, qui n'ont jamais existé dans nos... Donc, voilà, c'est quand je vous dis que c'est un jeu particulier, même pour nous, c'est incompréhensible. Ou des mots qui n'apparaissent pas. Graines de Népente, où il y a carrément le mot Omni qui a disparu. Bon, là, ouais. On est technique, pour les gens qui nous écoutent. Mais se dire, on se rend compte qu'il y a,
Mais là, c'est plus grave, en fait. En gros, le nom d'une carte, c'est c'est un problème.
Ouais.
Parce qu'on a un petit peu de mal à le retrouver. Ensuite,
mais l'effet d'une carte,
Il y a vraiment des effets sont différents et qui sont,
L'équilibre du deck aussi.
Ouais. Mais bon, très très vite. Alors, il faut savoir, c'est un peu comme la loi en français. Il y a des errata. Il y a des facs. C'est ça qui compte. C'est ça qui est pris en compte. Dans le cas de Keyforge, donc, les errata et les cartes sont en ligne. Il suffit que l'adversaire dise non, mais ta carte. Et puis, quand on arrive en tournoi, quand on joue entre soi encore, ça n'a pas trop d'importance, mais Keyforge est amené à être un jeu en tournoi, il est évident qu'il y a, on doit prendre en compte. Et on peut se rendre compte de la complexité du jeu, c'est que quand Richard Garfield donne des explications sur certaines cartes par rapport à des questions posées sur les forums, il explique très clairement que les textes des cartes correspondent pas à l'idée de la carte. Donc là, on a des errata aussi qui sont pas de notre fait parce que ça n'a pas été pensé comme ça. Et ça n'a pas été pensé pour ça non plus. C'est vraiment un cas particulier qui forge.
Bon, ensuite, ça a été corrigé. Donc, on a bien compris dans les prochaines impressions.
Tout à fait.
Il y a eu aussi quelques polémiques sur le fait que la règle n'était pas complète dans la boîte de base.
Alors, pendant des années. Alors on va prendre un cap très particulier. Pendant des années, les gens nous ont dit vous avez pas les règles en ligne. Mettez les règles en ligne. Il faut savoir que la valorisation d'un jeu quand il est traduit par nous ou par n'importe quel éditeur qui traduit un jeu, la seule valeur ajoutée qu'on a, c'est la traduction. Et la traduction, ça coûte cher. Parce que la traduction, il faut la faire, il faut la payer, il faut la retravailler, il faut faire la mise en page de ce jeu-là. À partir du moment où on va mettre une règle en ligne, potentiellement vous achetez n'importe quel jeu. Sauf là où il y a beaucoup de cartes avec du texte et vous jouez en anglais et vous téléchargez la règle. Bon, maintenant dans le cas de Keyforge, il n'y a pas la règle, mais c'est précisé sur la boîte. C'est une boîte d'initiation avec les concepts de base et qui dit maintenant que vous savez jouer, si vous voulez la règle complète, allez la télécharger. Et pourquoi la télécharger? Parce que ça fait référence à ce que vous disiez sur les errata et les facs. Une règle en ligne, on peut immédiatement la modifier, la télécharger. Nous, on l'upload immédiatement et donc on prend en compte toutes les dernières modifications. Après, le process qui fait que Keyforge a été traduit rapidement, que les boîtes sont arrivées rapidement, il y avait à mon avis à l'intérieur de la première version des premières boîtes d'initiation, parce que ce sont des boîtes d'initiation, faut bien le rappeler, il manquait peut-être certains éléments, certains mots-clés. Ça a été corrigé. Mais on le dit dès le départ, au dos de la boîte, c'est marqué, il y a un feuillet d'initiation et il n'y a pas les règles. Et à l'intérieur des règles, il y a marqué maintenant, si vous voulez les règles, c'est un feuillet d'initiation, il y a les éléments clés. Les gens vont nous dire oui, mais on a payé un jeu. Vous avez payé 40€ pour avoir 4 decks, des cartes. J'entends la critique.
La critique, à mon avis, elle est extrêmement simple. Elle est juste que si vous avez mis 4 pages, pourquoi pas mettre 6 pages? Est-ce que la différence de coût vaut vraiment le... Enfin, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire moins de pages? Voilà, c'est juste ça.
6 pages, ça marche pas parce que c'est des feuillets de 4 en impression. Bon, on s'en moque, on aurait pu dire 8. Mais à partir du moment, si on met 8 pages, pourquoi pas tout mettre?
Oui.
C'est un choix éditorial. Les gens peuvent le critiquer, mais la décision, elle vient des concepteurs du jeu chez FFG qui disent « on va mettre les règles en ligne ».
Alors, moi, je le comprendrais complètement si... tu dois t'inscrire, tu dois aller en ligne, donc ça te force les gens à aller en ligne, à s'inscrire sur votre site, et donc d'avoir des informations sur les personnes et que tout ça soit lié justement
au RGPD.
Au... Non, je pensais pas à ça. Tout ça, ça soit lié au...
J'ai perturbé.
Ouais.
Non, le RGPD, c'est simplement le fait de collecter des données en ligne.
Oui.
C'est absolument pas le but pour nous.
Mais non, c'est pas ça du tout. Le fait de justement de s'inscrire, de pouvoir tracer ton deck en ligne directement sur le site de FFG, ouais. et puis d'avoir tout qui soit lié finalement. T'as la règle en ligne, t'as tes decks qui apparaissent directement dans ton espace personnel, et justement comme ça force les gens à s'enregistrer et à enregistrer leur deck en ligne. Et pour moi, ça aurait tout à fait du sens. C'est même pas le cas.
Sur ce jeu-là, on n'a pas fait tout dans l'ordre.
Tu disais qu'il y a eu aussi un effet peut-être pas de précipitation, mais il y a eu un moment une urgence qui a pas mené, raison n'a pas forcément primé à des moments de prise de.
C'est simplement qu'à un moment donné, comme dans toute entreprise, et puis là c'est du jeu, donc c'est un peu compliqué. Il y a l'équipe de production, puis il y a l'équipe commerciale, et puis il y a l'équipe de l'OP, organisée on va dire, et puis il y a l'équipe aussi de l'application. Et donc, dans un monde idéal, tout le monde travaille au même rythme. Réellement, je pense que le choix qui a été fait au départ, c'était de dire, il va y avoir que deux ou trois feuilles d'initiation, enfin, un feuillet d'initiation de quatre pages, parce que les concepts de base sont là, et pour le joueur lambda, on va dire, celui qui ne fait pas de la compétition, c'est suffisant. Réellement, je pense que c'est suffisant, pour avoir testé avec des gens qui sont pas, même pas joueurs, c'est suffisant. Pour le joueur qui est plus dans la compétition, dans l'affrontement, au sens ludique du terme, c'est pas suffisant. Mais celui qui est dans la compétition, lui, il va aller chercher la règle en ligne parce que lui, il y est toujours sur son. Enfin, ils sont toujours là. Oui. Ils sont toujours là.
Non, mais c'est bien. C'est effectivement, il y a les règles de tournoi, il y a d'autres choses dans les règles du jeu. Mais en fait, c'est juste que ça donne l'impression de faire une économie de bout de chandelle avec le fait de mettre un peu moins de pages de règles dans la boîte, c'est juste ça en fait.
Imaginons qu'on ait mis, 24 pages. Ok.
Oui.
Bon, on met 24 pages, on se rend compte, et ça a été le cas, qu'il fallait modifier. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on dit? Et les joueurs vont nous dire, vous nous demandez, on les remet en ligne, les nouvelles, les modifier. Ah oui, mais pourquoi on aurait les règles en ligne? Pourquoi vous les réimprimez pas? Pourquoi vous nous les redonnez pas? Là,
Mais ça, je suis pas d'accord. C'est fait pour tous les jeux, de beaucoup de sociétés.
Est-ce que Magic avait ses règles dans la boîte actuellement?
Oui. Je ne sais pas.
Voilà. Magic, moi, quand j'ai connu Magic, il n'y avait pas de règles dans la boîte à l'époque, au tout début.
Je pense qu'il y a les règles actuellement.
Alors voilà, mais elles y étaient pas. C'est pour ça que je dis, en fait, on fournit un support qui est complet là actuellement. Et on aurait mis des règles en ligne. Elles étaient pas au format des decks. Donc les gens se seraient déplacés avec. Ils nous auraient dit ça va pas. Il faudrait les réimprimer. Vous voyez, je sais pas. C'est bon après. Moi, je donne un avis qui est éclairé par mon côté corporate, on va dire, de manière
directe. Oui, bien sûr.
Mais moi, ça me gêne pas. Honnêtement, alors très honnêtement, ça me gêne pas. J'ai même pas été les télécharger parce que j'ai joué sans. Parce qu'il y a des gens qui m'ont expliqué le truc. Je peux comprendre. À un moment donné, il y a eu une polémique. Ce qui est surprenant. Alors là, je vais pas me faire que des amis, mais cette polémique-là, elle a pas eu lieu dans tous les pays.
D'accord, c'est intéressant. Dans d'autres pays, elle n'a pas eu lieu.
Ouais, les Américains ont pas été choqués.
D'accord.
Les Italiens jouent énormément. C'est une approche. Mais c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'à un moment donné, on dit il faut mettre les règles en ligne, et quand on les met, on nous dit mais on les voulait en physique.
Ah non, mais je pense que les gens veulent les deux.
Les gens les voulaient les deux, peut-être. Enfin, tout simplement. Vous voulez avoir les règles en intégrale dans la boîte.
On est en train, en plus. Bon.
Et la possibilité d'aller les télécharger, justement, c'est des changements de règles.
Après, c'est ce qui est surprenant, c'est peut-être. Alors, sur Keyforge, c'est peut-être du fait du nombre de joueurs qui ont eu accès, parce que quand vous prenez d'autres de nos jeux, où il y a des applications derrière, ou des jeux avec une orientation compétition, la règle n'est plus dans la boîte. Je vais prendre pour exemple le jeu Star Wars Légion. Il y a le guide d'initiation, on va dire, qui présente le jeu, mais les règles sont en ligne. Les règles complètes sont en ligne parce que tous les points qui peuvent poser problème seront en ligne de manière à pouvoir être modifiés immédiatement. C'est la volonté, c'était pas de frustrer les gens, de leur dire bonjour, vous avez pas ça. Mais là, par exemple, en moins de 3 mois, on en est déjà à la 4e version des règles. C'est-à-dire que en moins de 3 mois, on aurait dit aux gens imprimerez 4 fois vos règles. C'est ça, c'est même pas une question de intellectuellement, je pense que chez nous, ça a pas été une question de se dire on va faire des économies. Voilà, il y a pas une volonté avoué, manifeste de dire on met que 4 pages, comme ça on fait des économies sur la boîte.
Bien sûr, moi j'en doute bien.
Voilà.
Je pense pas que la différence de coût soit si grande. C'est pour ça en fait que les gens, je pense que c'est juste de l'incompréhension.
Oui.
Et peut-être un manque d'explication de la part de FFG pour ça.
Mais ouais, on pourrait communiquer un peu plus. Mais après c'est compliqué. Hein. C'est comme là on est que 3 et on le dit de manière très très posée. On se regarde.
On a le temps de développer aussi. Voilà.
Le problème c'est que on le sait très bien. Je pense que vous le savez aussi. Quand on est derrière un écran d'ordinateur, on comprend pas forcément réellement ce qui se dit à travers les mots de l'autre. Nous là, on se voit, on a les regards, on peut échanger. Moi, j'ai des collaborateurs quand ils écrivent, même moi, alors que je suis dans la même pièce qu'eux, quand je les lis, je dis mais qu'est-ce que t'as voulu dire là ? Donc, pour quelqu'un qui en plus pose une question et qui est, alors je mesure mes propos, je dis, est un peu frustré de ne pas avoir eu sa règle, la réponse qui peut être donnée peut le braquer encore plus. Mmh. Et donc, sa réponse à lui va être peut-être un petit peu plus vindicative, donc elle va être perçue par mes collaborateurs comme étant un peu plus vindicative, ce qui va entraîner une frustration. On le comprend. Hein,
ouais,
c'est
ah bah complètement.
Et puis nous on est.
C'est pour ça qu'on se voit encore en vrai alors qu'on est en 2019 et qu'on pourrait faire que des conférences sur internet ou que s'envoyer des emails et puis en fait et en fait on est obligé de se déplacer en Espagne, à Paris ou autre part.
Et paradoxalement, le jeu en tant que vecteur de rapprochement physique, je parle, redevient fort. On a cru à un moment donné que les jeux en ligne allaient casser un petit peu l'univers du jeu, que chacun allait rester chez soi. Et en fait, ça repart. Keyforge en est l'exemple flagrant. Il y a énormément de jeux en ligne, de jeux de cartes en ligne. Keyforge, on le voit de plus en plus, les gens se retrouvent.
Alors, on va pas parler que de Keyforge. En arrivant, tu nous as dit que tu étais un grand joueur de jeux de rôle, en tout cas que tu faisais du jeu de rôle depuis les années 80, donc on va parler un petit peu de jeu de rôle.
Parce qu'on a eu une annonce assez importante.
Laquelle ? Non, je me doute, je vois bien de quoi vous voulez parler.
Voilà, c'est parce qu'il y a eu un grand moment de flottement quand on a appris que la licence donc de l'appel de Cthulhu était retirée aux éditions Sans Détour par Chaosium. Donc on a eu un grand flottement. On se demandait qui allait la reprendre pour la France.
Ouais.
Et donc on a appris que c'était Edge qui reprenait la licence. Alors sachant que par ailleurs, en termes de jeux de plateau, vous avez vous occupez aussi de Meurtre de l'épouvante, Contrée de l'horreur. Enfin déjà, vous avez déjà quand même une bonne connaissance de l'univers.
Vous remarquerez que pendant la période de la polémique, le seul éditeur français qui est pas intervenu, c'est Edge. Tout le monde a parlé. Nous, on avait réellement la volonté de pas intervenir. C'est encore une fois, c'est pour pas jeter de l'huile sur le feu. C'est y a une situation qui est compliquée.
Oui, très compliquée.
Il y a de l'humain derrière. On connaît tous les acteurs hein, de la situation parce que c'est des gens qu'on connaît bien en plus. Hein. Après, la collaboration avec Chaosium, elle existe depuis très 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 longtemps. Mais réellement, c'est des gens qu'on connaît très bien. La version espagnole de l'appel de Cthulhu est chez Edge depuis des années.
D'accord.
Donc on a collaboré de manière indirecte avec les éditions Sans Détour. À titre personnel, moi j'ai les éditions Sans Détour chez moi. Enfin, les éditions des éditions Sans Détour chez moi. C'est compliqué, hein. Il y a de l'humain derrière. Et puis après, il y a un aspect financier qui est derrière, qui est que Chaosium, il y a un problème entre les deux. On est là, on les voit, en plus, on les voit pas que pour l'appel de Cthulhu, on les voit aussi pour RunQuest, et puis pas que pour RunQuest, pour tout, pour le catalogue, parce que on est rôliste avant tout. Moi, comme je dis, ça fait des années, Cthulhu, le système générique de chez eux me plaît énormément.
C'est ancien.
Donc, on n'intervient pas dans la discussion et puis on veut essayer de rassurer un peu tous les joueurs.
Et est-ce que c'est vous qui êtes allé vers eux ou c'est eux qui sont allés vers vous ?
C'est un rapprochement mutuel.
Chacun fait un pas vers l'autre.
Il est évident que c'était. Alors quand vous êtes Chaosium, parce que c'est pareil chez eux, ça a énormément bougé. Il y a la mort d'un des fondateurs il n'y a pas tellement longtemps. Nous on connaît Sandy Peterson. Enfin nous, je dis le studio Edge, je connais Sandy Peterson depuis longtemps. On travaille avec eux. Gilles les connaît à titre personnel aussi. Donc on s'approche, on discute. Il y a des discussions. Ça se passe pas forcément très très bien. Il y a les embrouilles financiers qui ont été déballés sur la place publique depuis longtemps. Et nous d'un autre côté, on a quand même une volonté. Alors c'est pas d'avoir un contrôle, mais de se dire, on a les jeux de cartes dans l'univers développé là par Lovecraft. on a les jeux de figurines, on a les jeux de plateau. Et moi, depuis toujours, je me suis jamais interdit de me dire, et si on avait le jeu de rôle ?
Il y a une cohérence.
Il y a une cohérence. Hein. C'est juste à un moment donné, on se dit, pourquoi pas avoir tout ? Donc, on en parle. Et là, on se rend compte qu'on arrive à une échéance parce qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc, on va les voir parce que, en plus, il y a ce côté transverse où nous, on est leur contact direct via Edge Espagne. C'est nous, hein. Donc, on sait ce qui se passe de manière indirecte sans vraiment le vouloir et sans vraiment le demander. Donc, on est là et puis, ça se fait. On discute avec eux très, très poliment. Ça date. C'est-à-dire que la rencontre avec eux se fait avant l'annonce officielle. Mais on veut pas précipiter les choses. Du tout. On veut voir comment ça se passe. On veut laisser les choses se faire. Et puis, à un moment donné, on n'intervient pas non plus. Et on essaye de faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde. Il y a de l'humain derrière. Il y a de l'affect.
Absolument.
C'est compliqué. Voilà.
Facile à comprendre.
Le travail des éditions Son Détour a toujours été salué d'un point de vue visuel.
Oui. Alors, pour l'anecdote. Ouais. Au niveau visuel, il y a du travail de Edge qui a été utilisé par les éditions Son Détour. C'est-à-dire que le deal avec Chaosium, c'est que c'est un peu participatif dans l'approche. On n'est pas obligé, comme dans d'autres standards, d'autres jeux de rôle qu'on fait nous, où telle image doit être à tel endroit, il faut la faire telle taille, c'est imprimé à tel endroit, il y a tant de mots, tant de pages. C'est un peu libre, chacun apporte. Voilà. Donc nous, on avait un très bon rapport avec les éditions Sans Détour, hein, réellement.
Du coup, est-ce que tu as déjà en tête, vous avez déjà en tête chez Edge le parti pris visuel qui va être...
Oui.
D'accord.
Oui. Alors, ce ne sera... Alors, je l'ai déjà dit, mais je le redis à tous ceux qui nous l'ont dit. Ce ne sera pas visuellement similaire à ce qu'a fait les éditions Sans Détour. Ce ne sera pas visuellement similaire à ce que fait Chaosium. Ce sera visuellement similaire à ce que fait Edge Espagne. Bizarrement, donc il y a eu la rumeur, la polémique sur le format carré.
Oui.
Non, ce sera du format classique. Le format carré. Alors, on va le dire. À un moment donné, on ne savait pas exactement comment ça allait se passer la transition. Donc, on s'était dit la V6 espagnole, qui est le format carré, était une édition collector. Elle nous plaisait. Pourquoi on n'aurait pas, à un moment donné, utilisé ce format-là pour faire une édition prestige collector en France ? Mais la version, la V7, là, sera en format classique. Juste, on va utiliser l'iconographie et tout ce qui est le visuel de la version espagnole parce qu'on la connaît. Voilà.
Ben, merci beaucoup, Stéphane. En tout cas, ça mériterait vraiment d'avoir une interview plus longue
avec toi.
Alors, il y a 2 ans, je vous ai fait faux bond. C'est la seule fois où j'ai été malade en 10 ans.
Mais si tu montes sur Paris...
Sur Paris, ça m'arrive.
Sur Strasbourg,
Strasbourg aussi, c'est simple.
Non, viens à Paris, parce que la team Paris est beaucoup mieux que la team Est.
Non, mais il ne faut pas le dire.
Tout le monde le sait, de toute façon. Mais non, mais vraiment, on aimerait bien poursuivre la discussion. Et puis, parce qu'on avait encore plein d'autres sujets.
Ouais, c'est clair.
Je suis désolé.
Mais donc, un grand merci pour ta franchise.
Merci beaucoup d'être venu. Merci. Et puis ta franchise et toutes les explications que tu as données qui sont hyper claires. Voilà.
Merci beaucoup. Vous aviez pas un gimmick à me faire lire ?
Si, tout à fait. On va
on va le dire. Faut dire jouer bien à la fin. On va te le faire.
Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page Tipeee. Et oui, Tipeee, c'est ce qui nous a permis de couvrir le Festival International des Jeux de Cannes. Donc n'hésitez pas à devenir tipeur si vous voulez plus d'interviews et de débriefs comme on vous le propose. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout...
Jouez bien.